Bonjour, c'est Estelle Denis. Vous écoutez Ça se discute, un podcast RMC Life. Bonne écoute. Et soyez les bienvenus sur ce plateau que vous connaissez tous. Soyez les bienvenus pour le grand retour de Ça se discute. C'est un immense honneur pour moi de faire renaître cette émission culte. Même générique, même décor, même accessoire, je suis très heureuse de renouer avec ce programme incarné par Jean-Luc Delarue et qui nous a tant marqué. Ça se discute a marqué la télé, ça se discute a marqué la société. Alors, on a eu envie de redonner vie à cette émission. Des thèmes emblématiques, des invités sans tabou, des questions, des échanges, c'est ça, ça se discute. Et pour cette première émission, on vous propose un thème qui va forcément trouver un écho en chacun de nous, c'est celui des fugues et des disparitions. Chaque année, en France, 60 000 personnes disparaissent, 60 000 Français, parmi lesquels la moitié sont mineurs. Des personnes qui se volatilisent soudainement, sans explication, laissant derrière eux familles et proches plongés dans l'angoisse, le doute et l'impuissance. Alors, où chercher? Qui appeler? Que faire quand quelqu'un s'évapore? Et surtout, comment savoir si cette disparition est volontaire ou non? Fugue, rapt parental, disparition, comment vivre avec l'absence? C'est le thème de notre émission ce soir. Et je vous demande tout de suite d'accueillir chaleureusement et d'encourager nos invités installés dans ces fauteuils emblématiques. Car ces invités, ils s'apprêtent à partager avec nous un témoignage poignant. Sandrine, bonsoir.
Bonsoir Estelle.
Sandrine, que se passe-t-il dans la tête d'une maman quand son enfant de 15 ans disparaît du jour au lendemain?
C'est un boomerang dans la tête, enfin c'est une explosion, c'est l'apocalypse. C'est absolument terrible parce que forcément on ne sait pas ce qui se passe, on ne contrôle plus rien. Donc c'est très dur.
Ouais, ouais. Je vous sens très émue, et évidemment, tout le monde est très ému et tout le monde va vivre avec vous votre histoire, Sandrine. Oui. Votre fils, Louen, un adolescent bien dans ses baskets, a priori sans histoire, n'est jamais rentré pour dîner le 5 avril dernier. Ça. On vous a suivi dans vos recherches. Ce soir, dans Ça se discute, c'est aussi la bataille d'un père que nous vous proposons de suivre. Ce papa, c'est Vincent. Bonsoir, Vincent.
Bonsoir, Estelle.
Vincent, vos enfants ont été kidnappés par leur mère, par votre ex-épouse. Vos deux enfants, vous ne les avez pas vus depuis combien de temps?
Depuis le 10 août 2018.
D'accord. Ça fait 7 ans, Vincent. Sabrina, bonsoir.
Bonsoir.
Sabrina, votre conjoint Sylvain a disparu de façon très troublante. C'était il y a combien de temps, Sabrina?
Ça remonte au 18 décembre 2023.
3 ans sans nouvelles, Sabrina?
Bientôt 3 ans sans nouvelles, oui.
Comment on tient quand on n'a pas de nouvelles de son conjoint avec qui tout allait bien, avec qui on mène une vie sans histoire pendant 3 ans?
Ouais, c'est difficile parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Je n'ai pas de réponse à toutes les questions que je me pose et je ne comprends pas, en fait.
On va suivre votre quotidien avec vous dans un reportage dans un instant. On est également ce soir avec Sylvie. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Estelle.
Alors contrairement à nos autres invités ce soir, Sylvie, vous n'avez pas été confrontée à la disparition d'un proche. Et pourtant, vous avez décidé de devenir enquêtrice bénévole à l'ARPD, l'association de recherche des personnes disparues. Vous êtes enquêtrice. Sylvie, combien d'affaires résolues à votre actif pour l'instant?
28 sur 30.
28 sur 30. Ouais, c'est quand même un très beau chiffre. Pour une enquêtrice bénévole, on vous a suivi, Sylvie, dans votre 31e affaire. Jour après jour, nous étions à vos côtés. Alors, ce sont donc 4 histoires bouleversantes auxquelles nous avons choisi de consacrer un reportage. Mais avant de les découvrir, ces histoires, laissez-moi vous présenter notre grand témoin ce soir. C'est Dominique Rizet.
Bonsoir. Bonsoir, Estelle.
Bonsoir, Dominique. Dominique, le spécialiste français des faits divers. Il présente, bien sûr, Faites entrer l'accusé chaque dimanche soir, 21h sur RMC Découverte. Des rapts, des faits divers, vous en avez couvert des centaines, des milliers. Dominique, qu'est-ce que vous attendez de l'émission ce soir?
Écoutez, ce qui est intéressant, c'est la force de ces gens, l'entêtement de ces personnes, je pense à Vincent en particulier, de cet entêtement, les moyens que vous mettez à les retrouver, ça c'est important et c'est indispensable.
Évidemment, Dominique, vous êtes ici chez vous, vous intervenez quand vous voulez, justement, pour interagir avec nos invités ce soir. En fin d'émission, on vous proposera également une nouvelle rubrique, une rubrique qui va vous permettre de retrouver d'anciens invités emblématiques de Ça se discute. Ils étaient venus raconter leur histoire à Jean-Luc Delarue et on prendra de leurs nouvelles. On va démarrer ce soir avec Didier. Didier, il était venu il y a 23 ans nous raconter sa vie chez sa maman. Il était âgé d'une quarantaine d'années, Didier. Aujourd'hui, il en a plutôt une soixantaine. Il nous dira s'il vit toujours chez sa maman. Ça le fait rire, hein, pour le coup, Didier. Allez, sans plus attendre, je vous propose maintenant de découvrir notre reportage consacré à nos quatre premiers invités ce soir. Fugue, rapt parental, disparition, comment garder l'espoir malgré l'absence? C'est un reportage de Rita Schreiby et Virginie Fortuit, écrit par Valérie Tison.
Pasado la frontière solo con la scooter, con la moto. Ça te dit rien, cette petite bouille? C'est les jeunes, il y en a tellement.
Sandrine vient de poser le pied sur le sol espagnol. Depuis un mois, cette maman est en mode survie. Louen, son fils de 15 ans, s'est volatilisé de chez elle sans laisser de traces. Notre équipe l'a rejointe ici à Lloret-des-Mares, à 70 km de Barcelone, au cœur de l'enquête. Dans cette ville très prisée par les jeunes, Sandrine attaque avec nous sa première journée de recherche et croise sur son chemin la police locale.
Je vais aller voir le flic là-bas. Pardonnez. Pardonnez. Vous parlez français? This is my son. It's disappeared. It's disappeared since 1 month in France. And we suppose it's coming here. Because he had a problem in France. He had an accident with a scooter. And then the police came at home and he left.
Un accident de moto suite auquel il y a un mois, Louen, se croyant responsable et par peur des représailles, s'enfuit sans téléphone ni carte d'identité. Sa maman, relayée par des jeunes sur les réseaux, lance très vite un appel.
Louen, mon cœur, j'espère sincèrement que tu regarderas cette vidéo. Je voulais te rassurer, en fait, tout va bien. Bon, c'est vrai, t'as fait de la merde, mais sincèrement, c'est pas si grave que ça. Tout s'arrange.
Ça fait maintenant plus de 11 jours qu'on n'a aucune nouvelle de Louen. Au début, toute la famille pensait que c'était une fugue. Enfin, du moins, c'est ce qu'on espère tous. Mais après 11 jours, sa maman est persuadée qu'il est arrivé quelque chose de grave à Louen. Et on aimerait des réponses. On aimerait le retrouver le plus rapidement possible.
Donc Louen, si jamais, encore une fois, il y a très peu de chances que tu regardes cette vidéo-là, mais si jamais tu la regardes, sache que tes parents s'inquiètent énormément, que ton entourage s'inquiète et que même tous les jeunes de France, en tout cas la plupart qui ont un minimum d'humanité, s'inquiètent.
Tu manques à tout le monde. Donne-nous un petit signe de vie, vraiment. Parce que c'est très dur de ne pas savoir si tu vas bien ou pas. Et on a vraiment besoin de ça, mon chéri.
Louen est tout, sauf un adolescent rebelle. Il déteste le conflit, est bon élève et vit en garde alternée une semaine sur deux chez chacun de ses parents. Proche de sa sœur et entouré d'amis, il partage avec eux sa passion de la moto. Et par ailleurs, adore passer des moments en famille, notamment avec sa maman dont il est très proche.
Thank you.
Si Sandrine est ici en Espagne aujourd'hui, c'est qu'elle le sent en danger, n'ayant aucune nouvelle, hormis celle qu'elle a apprise la veille. Louen a été aperçue à la frontière espagnole il y a un mois, le jour de sa disparition. Il aurait parcouru plus de 500 km au volant de sa moto dans la même journée. C'est donc avec ces informations qu'elle tient tout de suite à alerter les autorités. Elle espère faciliter et accélérer les recherches sur le sol espagnol.
La Mosso d'Esquadra, c'est équivalent à la gendarmerie, en fait, en France. Avec l'immatriculation de son scooter, ils vont pouvoir contrôler si le scooter était sur déjà la ville de Lloret-del-Mar. Et en plus, ils vont pouvoir faire des contrôles aussi dans toute la Catalogne. C'est une belle avancée en très peu de temps, donc j'espère qu'on va rester sur ce... cet élan-là, parce que... on en a besoin.
Sandrine n'est pas venue seule. Elle et son ex-mari se sont répartis les recherches afin d'optimiser leurs chances de retrouver Louen.
Ouais. Bon, bah écoute, on est resté un long moment. Ils vont pouvoir faire des recherches. Franchement, ils sont sympas. Hein.
Ouais, bon,
ah ouais, ouais.
Je vais l'appeler tout de suite alors.
Ouais, super. Stéphane va appeler la gendarmerie française pour pouvoir modifier l'annonce de la disparition de Louen sur l'espace Schengen. On va pouvoir certainement le retrouver comme ça.
L'heure tourne. La police nationale espagnole, munie de ses dernières informations, arrivera-t-elle à intercepter Louen ? Sandrine, elle, s'apprête à faire ses recherches la nuit tombée.
Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis un papa français dont les enfants ont été enlevés à Tokyo le 10 août 2018 et pour lesquels je n'ai plus de nouvelles depuis. Je ne sais pas où ils sont, je ne sais pas comment ils vont, je ne sais pas à quoi ils ressemblent et je ne sais même pas s'ils sont en vie.
Le 10 août 2018, la vie de Vincent bascule, il rentre du travail comme d'habitude et découvre que sa maison est vide. Sa femme est partie avec leurs deux enfants, Tsubasa et Kaede, il ne les verra plus.
Et le sourire charmeur de mademoiselle. Ouais.
Elle ne parlait pas encore, puis bon, elle ne comprenait pas le français.
Revenu vivre chez ses parents près d'Arles, voilà maintenant 7 ans que Vincent n'a plus de nouvelles de ses enfants.
La dernière fois que j'ai vu Tsubasa, c'était le jour de l'enlèvement, on jouait un peu. Ensuite, je l'ai remis au lit, je suis parti au travail et je suis rentré. Puis la maison avait été vidée entièrement. J'avais vraiment pas vu le coup venir, quoi.
Cet ancien trader, expatrié au Japon, s'est marié en 2009 à une japonaise. Mais leur relation était fragile et marquée par des différences culturelles importantes. Entre 2015 et 2017, ils sont devenus parents de Tsubasa et Kaede pour le plus grand bonheur de Vincent. Mais après plusieurs années de tension, le père de famille a demandé le divorce en 2018. C'est alors que sa femme a organisé l'enlèvement de leurs deux enfants. Et au Japon, la culture et la loi favorisent le premier parent qui s'empare des enfants.
Je ne me doutais pas que l'enlèvement pouvait ne pas être puni et pouvait être une pratique courante au Japon. Un parent n'a pas le droit de partir avec les enfants et de priver l'autre parent de le voir.
La terre s'écroulait sous moi, quoi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un cauchemar ? C'est pas possible. C'est...
Là, ça a été vraiment la réalisation de ce que j'allais vivre pour les années à venir, quoi.
Très vite, Vincent dépose plainte pour enlèvement et installe un système de surveillance à son domicile. Il s'était aperçu que quelqu'un lavait son linge durant ses absences.
Je commence à visionner les caméras et sur une des vidéos, je vois bien que mon ex-épouse revient avec Kaede à la maison. Et elle se gare en fait dans le garage. Et elle met Kaede, qui avait 11 mois à l'époque, dans le coffre de la voiture. Et puis elle ferme le coffre et elle rentre dans la maison, va qu'à ses occupations. Et ensuite, on voit mon ex-épouse qui revient dans le garage, se met au volant de la voiture, quitte le garage. Et c'est la dernière image en fait que j'ai vue de Kaede.
Malgré ses preuves accablantes, Vincent se heurte à l'inaction de la police et de la justice japonaise. Il décide de faire une grève de la faim.
C'est là où je me suis dit, de toute façon, la seule chose qui me reste, c'est moi. Et je veux le donner au petit, quoi.
Ma hantise, c'était qu'ils finissent en prison. Et puis comme on avait eu vent de ces papas qui s'étaient suicidés là-bas, pour nous, c'était... Oh, c'était une crainte. Mais on a dormi en pointillé pendant des années. C'est pas de ta faute. Hein. Mais on a dormi en pointillé pendant des années. On se relayait la nuit. On disait, il a écrit, te regarde sur la tablette. Il a envoyé un message. On était sûrs qu'il vive en permanence. On avait peur en permanence. On s'est dit, mon Dieu.
Je me mettais en colère, dans des colères noires. Et c'est Vincent qui, à chaque fois, me ramenait à la raison en me disant que la colère n'est pas bonne conseillère. Et c'est lui qui m'apaisait. Et qui me ramenait à la raison, quoi. Et ça, là, je trouve qu'il est admirable dans ce sens, quoi. I see you when you're down and
depressed, just a mess. I see you. Pour tenir le coup, Vincent pratique le sport tous les jours et parfois même deux fois par jour.
Le sport, c'est mon exutoire, en fait. C'est la seule chose qui arrive à me faire dormir le soir. On peut tout essayer quand vous avez quelque chose dans la tête, vous ne dormez pas en fait. Et la seule chose qui force le cerveau à s'éteindre, c'est quand le corps n'est plus là. Et c'est dans ce cadre-là que je rentre en fait le soir à la maison pour pouvoir tomber sur le lit et dormir quelques heures. Quand je suis ici, que je pense aux enfants, je me dis il faut que tu aies la patate pour les revoir, tu as besoin de t'entretenir parce que le combat va encore durer des années. Je veux qu'ils soient fiers de moi en fait.
C'est avec Bernard, avec qui il s'entraîne quotidiennement, qu'il aime partager son histoire. Il a été abandonné à l'âge de 7 mois et a retrouvé les siens 40 ans plus tard. Alors le manque et l'absence, il connaît bien.
J'ai retrouvé mes frères à 40 ans. C'est un demi-frère, donc il n'avait pas non plus le même père, mais la même mère.
Quand je vois quelqu'un comme Bernard, ça me permet d'essayer de comprendre ce que les petits ressentent, parce qu'en fait, il vit ce que Kaede et Tsubasa vivent. Il y a des hauts et des bas, et quand il y a des bas, je me dis, ben, regarde, Bernard, lui, il a toujours voulu retrouver sa famille. Et je me dis, ben, peut-être que les petits ne le feront pas à 18 ans, ils le feront peut-être à 40 ans, mais c'est, tout n'est pas perdu.
Les retrouvailles, c'est beaucoup plus maintenant que si on a été vivre ensemble.
Et ça, tu vois, c'est ce qui me donne espoir, parce que je me dis que même si, si on a gâché les 40 premières années de notre vie, c'est peut-être ce qui va se passer avec Kaede et Tsubasa. On pourra toujours espérer avoir une relation et qu'elle soit forte, même une relation très, très forte comme tu as avec ton frère.
Ah oui.
Et ouais, ça donne espoir, ouais.
Voilà, c'est pour ça que je dis que continue le combat.
Vincent ne perd pas espoir de revoir un jour ses enfants. Son combat est quotidien et il espère dans les semaines à venir obtenir plus de réponses et faire avancer l'affaire. Ce lieu, le lac de Sainte-Croix, au pied des gorges du Verdon, Sabrina y retourne constamment, obsédée par des faits qui s'y sont déroulés voici presque 2 ans.
Qu'il aurait pu se servir de ce câble, parce que...
La disparition à 48 ans de son compagnon Sylvain, chaque détail, chaque trace a son importance pour comprendre.
S'il était venu dans l'esprit de mettre fin à ses jours en se noyant, il aurait pu se lester avec.
Pour Sabrina, rien ne laissait envisager une disparition du jour au lendemain. Ici, toute la région le connaissait. Sylvain était barman, toujours serviable. Il aimait rire et faire la fête. Énergique et curieux, il était également à l'écoute de la nature et aimait faire de longues balades en forêt. Papa, il savait surtout où étaient ses priorités. Sabrina est persuadée qu'il est encore en vie. Aujourd'hui, c'est avec Aurélien, pompier et ami de son fils, qu'elle refait le film de sa disparition.
Cette période de l'hiver, il arrive là, il fait nuit, il fait froid. Mmh. Ce qu'il a traversé donc avec le paddle, avec la bouteille de whisky, même moi je le ferai pas. Donc,
Le 19 décembre 2023, Sabrina alerte les autorités car Sylvain n'est pas allé travailler dans le bar qu'il emploie. Le lendemain, sa voiture est retrouvée près du lac avec un numéro de téléphone, celui de Sabrina, les factures d'un paddle, d'un balai qui lui aurait servi de pagaie et d'une bouteille de whisky ont été glissées dans son portefeuille et une sacoche vide, ainsi que des clés sont retrouvées sous un rocher comme une troublante mise en scène. Aurélien entend parler de l'affaire et se rend immédiatement sur place. Il sait que les minutes comptent.
On a pris un bateau et on a longé donc la falaise en face jusqu'à ce qu'on trouve le paddle en question. Bizarrement, il y avait une bûche derrière, comme pour ne pas qu'il s'en aille tout seul. On a trouvé des traces de sang, donc on s'est affolé, on s'est dit « putain, il est arrivé quelque chose ». On a commencé à monter la piste, à crier « Sylvain, pas de réponse, rien ».
Aurélien informe la gendarmerie.
Il avait un balai qu'on a retrouvé. Le manche était tordu. Hein. Il avait pris la forme du mouvement de la pagaie.
Et le lendemain, d'importants moyens sont déployés afin de retrouver Sylvain. Hélicoptère, drone, plongeur, le lac est ratissé de fond en comble, en vain.
Il y a des fois où je me dis il est plus là et des fois je me dis il est quelque part et peut-être qu'il n'ose pas revenir, peut-être qu'il se sent mal du mal qu'il a pu faire en partant parce qu'il a fait du mal quand même. Ou est-ce qu'il est peut-être mort quelque part, on ne sait pas.
Aujourd'hui, Sabrina retrouve des enquêteurs de la RPD.
Bonjour Sabrina.
Bonjour.
Une association qui vient en aide aux proches des disparus.
Alors, voilà, la voiture de Sylvain a été retrouvée là.
D'accord.
Et qui intervient sur certaines affaires lorsque les pouvoirs publics échouent par manque de temps ou de moyens.
Juste à cet endroit-là. Voilà.
Elle a tenu à les emmener sur les lieux de la disparition de Sylvain afin qu'ils puissent vérifier d'eux-mêmes les informations mentionnées dans leur dossier.
Pour la RPD,
voilà.
Et sur les lieux où ont été retrouvées certaines affaires de Sylvain, Sabrina évoque la disparition mystérieuse d'autres objets à son domicile.
Il avait avec lui un sac à dos isotherme.
Ouais.
C'est un sac isotherme qui était toujours chez lui. Il n'a pas été retrouvé chez lui. On n'a pas retrouvé non plus son téléphone, ni sa carte bleue. Il y avait quand même un portrait de sa fille assez grand. C'est des choses là, qui n'étaient plus chez lui. Donc, est-ce qu'il a traversé ce lac ? Qu'il a eu un accident, qu'il est tombé.
Donc ça voudrait dire qu'il a traversé. S'il était tombé au milieu du lac.
Le panel serait pas rangé là-bas tout seul. Hein.
Est-ce qu'il a décidé de partir et de mettre toute sa vie d'avant derrière lui, je sais pas.
Sylvain aurait-il voulu mettre fin à ses jours, emmenant avec lui ses souvenirs? Aurait-il eu un accident? Sabrina en doute, tout comme l'inspecteur qui, au vu des faits, n'est pas convaincu par la thèse du suicide.
Il faut vous préparer à ce que ce ne soit pas la même personne, vous vous en doutez.
Depuis 4 ans à Paris, Sylvie enquête bénévolement au sein de l'ARPD, l'association d'enquêteurs bénévoles qui vient en aide aux familles de disparus. En France, plus de 50 000 personnes disparaissent chaque année, mais bon nombre d'entre elles ne sont pas qualifiées d'inquiétantes et ne font pas l'objet d'enquêtes. C'est alors que l'ARPD intervient, composée d'anciens gendarmes, de policiers, mais aussi de bénévoles. Elle se mobilise sur tous les fronts. Sylvie, elle, a résolu pas moins de 28 affaires sur 30, ce qui lui a même valu d'être sélectionnée pour participer, il y a 2 ans, à une émission traitant d'affaires non élucidées. À 45 ans, Sylvie a été pendant des années l'assistante personnelle d'un homme d'affaires américain. Il y a 4 ans, à la suite d'un problème familial, elle découvre l'ARPD. Pour elle, qui a toujours été passionnée d'enquêtes et de faits divers et l'évidence, elle veut devenir enquêtrice bénévole.
Alors, pour retrouver quelqu'un, on a plusieurs méthodes. On a un annuaire qu'on a constamment sous les yeux, où il y a les différentes associations et les services de police sur lesquels on a un point d'entrée, où on a des relations avec.
Constamment en lien avec les familles, elle analyse, écoute, afin de cibler au mieux ses recherches.
Peut-être lui donner des nouvelles de ses enfants, si elle a un petit surnom, si quelque chose qui la reconnecte en fait avec vous, avec sa famille. C'est en discutant avec les familles qu'on arrive à planter un décor, qu'on arrive aussi à rentrer dans la personnalité du disparu. C'est très important de savoir ce qu'il aime, où est-ce qu'il aurait pu aller, où est-ce qu'il se sent en sécurité, ce qui le passionne, ce qui lui fait peur.
Ces jours-ci, c'est sur une nouvelle enquête que planche Sylvie. Il s'agit d'une femme qu'on appellera Manon, mère de famille, qui, à la suite d'une dépression postpartum, a décidé de quitter le domicile conjugal 3 ans après son accouchement. Sans domicile fixe, elle se déplacerait depuis 4 ans de foyer en foyer. Sa sœur, très inquiète, a fait appel à Sylvie pour la retrouver.
J'ai une piste, j'ai un numéro de téléphone que la famille nous a donné, mais je vais réessayer d'appeler parce que ça n'a rien donné.
Une fois votre message enregistré...
C'est constamment sur répondeur, donc je raye ce numéro, je pense. Là, j'attends un appel d'un de nos contacts, un de nos partenaires, qui va peut-être avoir un numéro qui est mis à jour. J'ai réussi à repérer un secteur où elle pourrait être.
Et pas question d'entamer cette nouvelle journée de recherche sans s'entretenir avec Anne, une collègue qu'elle voit régulièrement, afin de partager son avis et de ne mettre aucune piste.
Disparition volontaire.
C'est une disparition volontaire.
Mais voilà, c'est ce qui me semblait voir dans le dossier.
Conflits familiaux, avec les amis, même les amis, elle s'est fâchée avec tout le monde. J'ai essayé de la joindre. Mm-hmm. Une fois, je l'ai appelée. Elle m'a rappelé.
D'accord.
Mais quand je lui ai demandé si c'était elle, elle m'a dit que c'était pas elle. Le truc, c'est qu'elle avait vraiment la voix de sa sœur et le même accent.
D'accord.
Donc je pense que c'était elle.
D'accord.
Donc voilà, on en est là.
Donc elle te dit, c'est pas moi,
Elle me dit, vous faites erreur, c'est pas moi. Mais quand même, j'ai quand même déroulé. Je me suis quand même présentée. J'ai exposé la situation, elle ne m'a pas coupée. Elle m'a écoutée.
D'accord.
Et malheureusement, suite à cet appel, Manon ne lui répondra plus. Anne se demande s'il est sage de continuer les recherches.
Peut-être voir avec la sœur et lui dire ce qu'il en est, parce qu'on va se poser la question maintenant de est-ce qu'on estime qu'on poursuit l'enquête ou pas. Qu'est-ce que toi tu penses? Et est-ce que tu as eu la sœur récemment au téléphone?
Oui, ben j'ai informé sa sœur de la situation. Elle était déjà très soulagée, parce que même quand on sait que c'est une disparition volontaire, on a toujours peur que... En plus, c'est une femme seule, une femme, c'est toujours vulnérable.
Oui.
Donc déjà qu'elle aille bien physiquement, ça l'a beaucoup soulagée.
Mais Sylvie sait que Manon a été vue plusieurs fois depuis mars dans le même foyer.
Il y a un centre d'hébergement qui revient toujours. Avant qu'on ait le dossier, elle était dans un hôtel qui est un centre d'hébergement. Mais depuis, plus rien. D'accord. Jusqu'en mars.
Donc déjà, ça, on est sur des preuves de vie, des choses un peu positives.
Ouais.
Maintenant, il faut essayer de voir si on entre en contact avec elle et si on obtient des informations complémentaires.
C'est ça. Et j'ai un courrier de sa sœur aussi que j'ai demandé de préparer une lettre, de le déposer au centre d'hébergement, qu'elle nous rappelle.
Voilà, très bien. On continue comme ça.
Avec l'aval de sa collaboratrice Anne, Sylvie est bien décidée à poursuivre son enquête demain sur le terrain. Près d'Arles, nous retrouvons Vincent, ce papa qui se bat chaque jour pour retrouver ses deux enfants, Tsubasa et Kaede, enlevés au Japon par son ex-épouse en 2018. Toutes ses journées sont consacrées à ses enfants, sa seule raison de vivre. Et depuis plusieurs mois, il étudie chaque jour le droit.
C'est du temps que normalement je devrais être sur un stade de foot ou amener la petite à sa classe de danse. Je veux passer ce temps-là, je veux le dédier aux enfants. Je devrais le dédier aux enfants quoi qu'il en soit. Donc malheureusement, je peux pas être avec eux physiquement. Mais c'est ma façon d'allouer mon temps de papa en fait aux petits.
Vincent et son avocate préparent un procès très important, celui de son ex-épouse, jugée pour soustraction et mise en péril de mineurs. Un procès reporté trois fois qui doit avoir lieu dans quelques semaines.
Le combat est très onéreux. Au Japon, il m'a tout coûté. J'ai la chance d'avoir rencontré Jessica Finel en France qui me défend, qui ne demande jamais rien en fait, qui le fait vraiment par amour de Kaede Tsubasa alors qu'elle ne les a jamais rencontrés, ce qui est très touchant. Côté Japon, j'ai dépensé entre 250 et 300 000 euros de frais d'avocat et de détective privé. Et si on compte la perte sur salaire de 4 ans, la maison, tous les frais, j'en suis à plus d'1,5 million. J'ai dû venir en fait me retrancher chez mes parents qui m'aident. Voilà, qui m'offre le gîte et le couvert et puis le soutien émotionnel, surtout, et continue le combat.
Un combat que Marie et Claude continuent également à ses côtés.
Tous ces articles-là pour faire le dossier complet. Ouais. Hein.
On archive tout le combat de Vincent. Ça va des photos aux vidéos qu'on récupère sur les réseaux sociaux. On a la presse française, plus encore un gros dossier à l'intérieur qui concerne toute la médiatisation à l'international.
Une médiatisation dont le point d'orgue a été ce film, Une part manquante, inspiré de la vie de Vincent.
Ici, c'est le premier qui prend l'enfant qui a la garde.
Ils sont partis, mais j'étais... Je pouvais pas accepter, tu vois, et...
C'était magique pour nous, parce que beaucoup de gens nous connaissent, mais ils ne connaissaient pas réellement l'histoire de Vincent.
Faire vivre l'histoire de Vincent, c'est aussi croire en l'avenir, et ses parents le font également grâce au réseau.
Tous les ans, depuis décembre 2018, on envoie des cadeaux à nos petits-enfants.
Nous vous envoyons deux fois par an des cadeaux pour vos anniversaires et vos Noëls chez vos grands-parents japonais.
Troisième Noël, c'est le quatrième Noël.
Coucou mes petits, c'est mamie.
Voilà le sixième Noël que nous passons sans nouvelles de vous.
Un jour viendra, on sera tous réunis. On vous aime, on vous embrasse, on vous adore de tout notre cœur. Un gros bisou, joyeux Noël mes petits.
Ça fait 7 ans, en fait, qu'on fait ça.
Nous, on vous attend jour et nuit, 24 heures sur 24.
Aujourd'hui, Vincent est à Paris. Il a rendez-vous avec son avocate Jessica en vue du procès de son ex-épouse. Si elle est condamnée, son mandat d'arrêt international sera prolongé.
L'échéance du 7 juillet va vite arriver. En principe, c'est la date à laquelle votre ex-femme va véritablement être jugée. Elle encourt 3 ans de prison ferme. C'est toujours le même problème, qui est que tant qu'elle est au Japon, elle ne risque rien. Mais si elle voyage, elle peut se faire arrêter. Vous le savez très bien, cette condamnation en elle-même, elle ne va pas vous ramener du jour au lendemain vos enfants.
C'est leur donner le statut de victime. Pour moi, c'est très important, parce que pour l'instant, ils sont dans un contexte où c'est normal d'avoir été enlevé. Et littéralement, c'est comme ça.
Le dossier de Vincent est très complexe, mais son avocate s'accroche, se bat et y croit. Elle en apprend tous les jours, malheureusement, sur la loi japonaise.
Mais vous n'avez pas perdu votre lien de filiation.
Si, je suis radié de ma famille au Japon.
Dans sa filiation, il n'y a plus de filiation avec un des deux parents. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Un simple divorce, vous n'êtes plus le père.
Oui, c'est pour ça qu'en fait, on peut adopter mes enfants sans mon consentement, parce que j'ai plus aucun droit sur les enfants.
Alors ça, il faut qu'on le verse devant le tribunal. Vous êtes tout à fait conscient du fait que ça ne va pas tout de suite vous ramener vos enfants, mais vous préparez la suite et vous vous dites, moi, quand je retrouverai mes enfants, c'est impressionnant, la force que vous avez, Vincent, vraiment.
La décision sera délibérée, je suppose.
Oui, très certainement. Ce n'est pas une obligation, mais dans une affaire de cette nature-là, il y a de grandes chances que ce soit en délibéré, oui.
D'accord.
Dans quelques semaines, c'est au tribunal de grande instance de Paris qu'aura lieu le procès. L'ex-épouse de Vincent sera-t-elle condamnée ? Il est 22h et nous retrouvons Sandrine et Stéphane à Lloret des Mares en Espagne, plus actifs que jamais.
Tu fais le côté droit, je fais le côté gauche.
Ouais. Leur fils Louen a disparu depuis un mois et c'est ici qu'il pourrait se trouver. Sandrine sait qu'ils ont des chances d'obtenir des indices auprès des jeunes la nuit tombée.
Là, il aurait pu aller là-dedans, tu vois. Hola. Hola, buenas tardes. Vives aquí? C'est mon fils, il a disparu. Il était peut-être ici la semaine dernière ou... La semaine d'avant.
Désolé, mais on
ne s'en rappelle plus de sa tête. Non,
j'ai pas vu, moi. Je peux faire une photo? Mi cuñado vive aquí al lado.
Ah, ok.
Ils sont de aquí.
Ah, ok. Non? Pour prendre une photo? Oui, bien sûr.
Jamais on le revoit, on contacte.
Ouais.
Parce qu'on traîne souvent à l'oreille.
Mais j'ai pas vu, moi.
D'accord.
Pardon pour ça. Hein.
Ah, merci, merci beaucoup. Merci.
J'espère que tu vas trouver. D'accord.
Merci.
Merci à vous.
Hola, mi hijo está desaparecido, ¿le has visto?
¿Qué?
Mi hijo está desaparecido una mes, un mes. Es mi hijo, es desaparecidos. Ah, vous êtes français?
Oui.
J'ai mon fils qui a disparu ici à Lloret del Mar. Est-ce que vous l'auriez vu?
Donc c'est like there is too many people. They yeah, come in here and they was young, like they look like him.
Yeah, I know.
If I say I see him, they maybe it's not him, like you
yeah,
know.
Yeah, yeah. Okay.
Lo hablaremos por okay. las redes también.
Entonces. Okay, gracias. Gracias, muchísimas gracias.
Désolé, de vrai. Je suis vraiment désolé. De vrai.
Si Sandrine accumule au fil des heures les réponses négatives, sa présence ne tarde pas à intriguer les jeunes qui l'abordent d'eux-mêmes.
Ben en fait on sait pas, mais son rêve c'était de venir ici en fait, parce que c'est la fête, parce que tous les jeunes français ils veulent venir à Lloret del Mar, hein. Donc voilà, donc on le cherche. Merci. Inch'Allah. Il y avait beaucoup de monde la semaine dernière. Là, pendant 3 semaines, il y avait énormément de monde. Donc, il aurait pu se fondre dans la masse. En fait, on arrive une semaine trop tard.
Entre espoir et déception, Sandrine continue d'arpenter les rues en vain.
Si, Donji, de Francia.
Pero él vino aquí en Lloret del Mar.
Hola, dime, mi hijo está desaparecido. Là, regarde, c'est bien là. Oh, c'est pas facile, putain.
Elle ne baisse pas les bras et placarde la ville d'affiches. Il est tard, très tard, et Sandrine est déçue, épuisée.
J'ai l'impression qu'on brasse du vent, en fait.
Mais sa prochaine rencontre va lui remonter le moral.
Alors attends, ouais, j'ai enlevé.
Attaché,
non, bah oui, c'est moi, j'ai enlevé les élastiques pour qu'on voit mieux l'affiche, mais.
Je vais balancer sur Instagram aussi.
Oh, c'est super. Retrouvons Louen, donc Louen.
@gmail.com. Je travaille sur les réseaux sociaux.
Ça aurait pu être
ma mère. Moi, je suis Lyon, je sais que là, elle s'inquiète parce que je suis loin. Et ça me brise le cœur.
Est-ce qu'on avance là-bas, mettre une affiche? En bas, sans dire. Ok. Si vous voulez me suivre juste à 2 minutes, on va la caler sur un coffre. Il finit toujours pas rentrer au bar. Je vous assure qu'il finit.
Mais en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il ait fait une mauvaise rencontre.
C'est sûrement ça. Mais quand on fait une mauvaise rencontre, on s'en rend compte au bout d'un moment que c'est une mauvaise rencontre. Mm. Donc il finira par reprendre le chemin de la maison.
En fait, demain, on aimerait faire tous les petits hôtels où peut-être il peut venir sans.
Je vais vous aider moi-même, je connais des patrons d'hôtels, ouais. On va mettre un maximum d'affiches demain.
Es mi hijo.
Sí. Es el de su. Vamos a ponerlo aquí, sí.
Ok, ok.
Sí. Ahora lo cuelgo yo aquí.
Ok, ok, ok.
Vale, ojalá que aparezca.
Ok,
gracias.
واحد بوز بولدر فرنساوي مؤامر الملكة رعنا.
اوكي شكرا.
ميرسي خاي صحي ربي يخليكم.
شكرا.
Ils finissent toujours par rentrer, je vous garantis. Ça va le faire, ça va s'arranger.
Merci. Ok, shukran, merci. Ils sont trop mignons. Oh, ça fait chaud au cœur.
Pas une trace de Louen à l'issue de cette première journée de recherche, mais Sandrine ne se décourage pas. Elle doit coûte que coûte le retrouver. retour dans le Var, cette fois-ci à La Motte, chez Sabrina. Chez elle, impossible d'oublier Sylvain, son conjoint disparu il y a 2 ans.
Il est là.
Sa présence est partout, sur chaque mur, dans chaque pièce.
Il est là. Avec ma fille. C'est une de nos premières photos. Au restaurant où il travaillait mon fils, à l'époque. Il est partout, dans mes pensées. Il est là, il est en moi, quoi, en fait. Il n'y a pas un jour, pas une seconde où je ne pense pas à lui. Et... Avec son écharpe, près de moi, des fois, je lui parle. Je regarde sa photo. C'était ma moitié, quoi, en fait. C'était mon repère. Et s'il me voit et s'il m'entend, j'aimerais qu'il m'appelle et qu'il me dise arrête, même s'il doit me dire arrête de me chercher, voilà. Juste ça. Je vais bien. Je sais pas. Me faire un signe, un geste.
Il y a 11 ans, lorsqu'elle a rencontré Sylvain, Sabrina était une femme pétillante et pleine de vie.
C'est un enfant.
Avec lui, elle formait un couple tendre et complice et les moments de joie étaient nombreux. Aujourd'hui, pour elle et sa fille, l'absence de Sylvain est insupportable.
Ah, de près l'album. On était allé voir
les
flamants roses. Toujours, voilà, le sourire, quoi. Au lac, voilà.
Je suis très en colère contre lui. Surtout quand je vois dans l'état dans lequel on est...
Elle le considérait comme son deuxième père et ne comprend pas qu'il soit parti sans prévenir et cherche des explications.
2 jours avant, on était parti faire les magasins. Il s'était acheté des trucs. C'est très rare quand il s'achetait des vêtements. Donc il s'en était acheté. Il était tout content de nous montrer en sortant de la cabine. Donc je comprends pas sa décision. Je suis triste et en même temps en colère contre lui.
Guylaine, la tante de Sylvain, est plus apaisée.
On s'est retrouvés tous réunis. On avait une grande table sur la terrasse.
Consciente que Sabrina a besoin pour remonter la pente de récolter les bons souvenirs, elle lui parle pour la première fois de lui plus jeune.
Et celle-ci, regarde. C'est dans la cour où ils avaient leur... que ses parents tenaient le bar. Là, c'est... Alors, regarde où est Sylvain.
Il est là derrière.
Oui.
Il a été petit aussi, donc ouais, ça me fait drôle. C'est des photos que je connais pas.
Ben non. Là aussi, c'est l'imbécile.
Un petit moment hors du temps qui semble faire du bien à Sabrina, mais quelques instants plus tard, l'émotion reprend le pas.
C'est des jolies photos, c'est des jolis souvenirs, mais j'ai l'impression qu'en fait, on parle de lui là comme s'il faisait plus partie de ce monde.
Même si on retrouve pas Sylvain, moi j'aurais... ce souvenir de lui petit et il n'aura pas été malheureux.
Et quelques jours plus tard...
Bon, allez, Sabrina.
Allez.
Toi, t'amènes les biscuits, moi, j'amène les verres.
C'est au tour de Sylvie et de Steve, des amis du couple, de revenir sur la personnalité de Sylvain.
Ça va, ma bonne?
C'est dur, mais bon, ça va.
Ouais. On se voyait pratiquement tous les week-ends.
Ouais, pratiquement.
Alors, tous les week-ends, Et il était toujours souriant.
Un homme qui ne laissait rien paraître et qui laisse derrière lui bien des mystères.
Tellement mystérieux, tellement refermé, tellement...
Ouais, il disait rien.
Il disait jamais rien. Jamais.
Sabrina comprend qu'elle n'est pas la seule à ne rien avoir vu venir. Ses amis sont là pour la rassurer.
Jamais il a pu laisser paraître un état dépressif. Moi, jamais j'aurais pu dire ça. Jamais, jamais, jamais.
Puis c'était pas quelqu'un qui parlait.
Voilà,
il se confiait pas.
Mais aussi pour l'encourager à vivre enfin pour elle.
Je souhaite que tu aies réponse à tes questions un jour et le plus vite possible. Et que maintenant, à partir de maintenant, il faut vraiment que tu penses à toi.
Tu t'es démené pour le chercher corps et âme, quoi.
Stop, il faut penser à toi, là.
De retour à Paris avec Sylvie, l'enquêtrice bénévole de la RPD, l'association qui aide les proches de personnes disparues. Elle recherche Manon, SDF, depuis 4 ans.
Excusez-moi.
Elle compte remettre une lettre de sa sœur au personnel d'un centre d'hébergement où la maman aurait été vue.
Et sa sœur qui nous l'a laissée, pour voir si elle peut nous rappeler, si elle a besoin d'aide ou de reprendre contact avec sa famille. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut faire, en fait. Vous laisser une correspondance.
Et l'agent d'accueil ne veut pas prendre la responsabilité de garder la lettre, n'étant pas sûr que Manon revienne.
Et là, elle n'est pas sur votre liste.
C'est quoi le prénom de Manon?
Pas de bol.
Désolé que votre enquête a échoué.
Pour ce... Je ne lâche rien. Au revoir.
Et Sylvie ne se décourage pas et connaît des endroits où notre maman pourrait se rendre.
Là, je me rends au bain-douche. Parce que quand on est à SDF, c'est le passage oblige de tous les bains-douches de Paris. C'est le plus discret, le plus calme. Je pense que pour une femme... Enfin, moi, dans sa situation, c'est cette adresse que je choisirais.
Mais c'est aussi ça le travail de Sylvie, des portes fermées comme aujourd'hui. Et il en faut beaucoup plus pour démotiver la jeune femme.
Je pense qu'on va aller secteur Porte d'Orléans. Je vais faire une enquête de terrain là-bas. Voilà, sait-on jamais. Il faut provoquer la chance.
Direction le 14e arrondissement. Sylvie s'arrête à l'entrée d'un parc.
Voilà, l'idée, c'est d'avoir des témoignages, peut-être même de la croisée.
Très vite, elle repère deux jeunes femmes et les accoste, loin de se douter qu'elle les connaît déjà.
Bonjour. Je suis à la recherche d'une personne disparue.
Ah, mais vous êtes venue au centre d'hébergement?
Mais oui.
Oui. Oui. Vous êtes encore à sa recherche?
Oui, oui, toujours.
Toujours la même personne?
Ouais, toujours la même personne.
Parce que peut-être qu'entre-temps, elle est revenue au centre?
Je crois que oui, parce que je suis passée le 17, elle est venue le 19.
Munie d'une photo, ceux qu'elle croise ensuite ont l'air d'avoir également déjà vu Manon.
Bonjour messieurs, bonsoir.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Alors, qu'est-ce que vous...
Vous êtes souvent ici?
Oui.
Je suis à la recherche d'une femme portée disparue qui serait peut-être dans le secteur. Ce serait une cliente à vous, enfin de votre café.
Ça dit quelque chose.
Merci messieurs. Si vous voyez quelque chose, vous appelez. Hein. Alors, là, ça a été pas mal. On a peut-être une nouvelle piste. Il y a un cuistot qui travaille pas loin, qui pense l'avoir reconnu. Et il y avait ces deux femmes qui étaient là. Il y en a une qui travaille à l'hôpital pas loin, donc qui va se renseigner. On va aller faire aussi les boulangeries, parce que parfois, ils donnent des invendus. Je voulais savoir si vous aviez vu cette dame.
Ah.
Ça vous dit rien?
C'est...
Vous jamais? D'accord, ok. Merci, au revoir. Tiens, il y a un tabac juste en face. Je suis à la recherche d'une personne qui est portée disparue. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Absolument pas.
Bon, simple, efficace.
Ouais, désolé. Hein.
Merci beaucoup. Merci, au revoir. Là, c'est sûr qu'elle n'est pas passée. Je vais tout de suite à la réaction, ils l'ont jamais vue.
Et quelques minutes plus tard...
J'ai eu du nouveau. J'ai mon contact qui m'a rappelé, il m'a donné le bon numéro, le numéro actualisé de notre maman disparue. J'ai pu lui envoyer un message où je lui fixe un rendez-vous en espérant qu'elle vienne.
C'est ce qui s'appelle une bonne journée pour Sylvie qui touche du doigt son but, retrouver cette maman, Manon, recherchée par sa sœur. Armée de patience, elle s'installe au bout du parc sur le lieu du rendez-vous. Sylvie a l'habitude, le temps est souvent son allié. À l'issue de planques ou de longues attentes, elle a parfois de bonnes surprises. Mais 2 heures passent et aucun signe de Manon.
J'ai l'impression d'avoir tout essayé dans le sens où voilà, faut provoquer des occasions où elle puisse se lancer en fait. La graine est plantée. On attend maintenant que ça germe et que ça fleurisse. Et voilà, on sait qu'elle va bien, qu'elle est en vie, qu'elle sait se débrouiller. On continue, on lâche pas.
Paris, quelques semaines plus tard, c'est le grand jour pour Vincent. Le procès de son ex-épouse, ayant enlevé ses 2 enfants au Japon il y a 7 ans, va enfin avoir lieu. Un procès reporté à plusieurs reprises.
Ça fait 6 ans qu'on attend en fait cette journée. La partie adverse fait tout pour éviter ce procès, les autorités japonaises également. On a beaucoup d'espoir dans cette journée et peut-être la première fois qu'on pourra donner accès à la justice aux petits. Donc c'est très important.
Et Vincent, comme toujours, se bat non pas pour lui, mais avant tout pour Tsubasa et Kaede, ses enfants.
Toutes les actions que je fais, elles ne sont pas pour moi. Hein. Je me bats pour que les petits aient le droit de retrouver leur père, de pouvoir restaurer les droits les plus fondamentaux aux enfants. Donc oui, c'est pour eux aujourd'hui.
Et en ce jour important, Vincent n'est pas seul.
Quand tu joues 7 ans de ta vie en une heure...
Toute sa famille est venue le soutenir, Marie, sa mère.
Je ne sais pas comment il fait.
Claude, son père, mais aussi Aurore, sa sœur.
Salut.
T'es prêt ?
Bah, ça fait 6 ans que je suis prêt, quoi.
S'il y a bien une chose qu'on ne pourra pas t'enlever, c'est ton rôle de papa que t'as fait au-delà de tout ce que les autres papas auraient bien pu faire.
Maintenant, aujourd'hui, on va croiser les doigts. Hein. J'espère qu'ils rendent justice aux enfants, voilà.
C'est peut-être que des enfants, mais ils ont le droit de respect comme les adultes.
Et c'est ça qui est rageant, c'est d'être obligé de se défendre pour avoir juste un droit fondamental de voir ses enfants. Kaede, moi, je l'ai vu une fois dans ma vie. Tsubasa, la dernière fois qu'il est venu en France, j'ai pas pu l'embrasser parce que sa mère lui interdisait tout contact physique avec nous. Donc c'était dur, c'était déjà en préparation et c'était prémédité. C'est impossible sans ça.
Accusée de soustraction et mise en péril de mineurs, l'ex-épouse de Vincent sera absente aujourd'hui mais représentée par ses avocats français. Elle risque la prison et de voir son mandat d'arrêt international prolongé.
Tu vois Vincent, c'est la 3e fois qu'on vient ici. Cette fois, c'est la journée qui est la plus angoissante. Enfin moi, j'angoisse plus que les 2 précédentes.
Joyeux anniversaire, papa. Une façon anodine de passer un anniversaire.
J'espère qu'il aura une saveur particulière, ouais, celui-là.
Ouais. Allez, on va aller voir Jessica.
On y va.
Allez, ça va. Ça va.
Direction le tribunal de grande instance de Paris, où Vincent retrouve son avocate.
Bonjour Vincent.
Bonjour Jessica. Et merci pour votre appel hier soir. Ça fait une grosse différence.
Jessica lui a donné rendez-vous afin de l'informer à nouveau du déroulement de l'audience.
L'affaire va être appelée. Il va y avoir un rapport du dossier par le président, d'accord ? Nous plaidons en premier, puis ensuite le parquet va requérir une peine.
D'accord.
Et ensuite, c'est la défense qui évidemment aura la parole en dernier, d'accord ? Voilà.
D'accord.
On y va ?
Allez, c'est parti, merci.
C'est parti.
Merci.
Il est 13h, l'audience commence dans quelques instants et la famille de Vincent espère que l'attente ne sera pas trop longue.
On a la réponse aujourd'hui ?
En principe, non. Après les vacances judiciaires, en tout cas.
D'accord.
Septembre, octobre, on verra bien.
Place à l'audience, qui devrait durer environ 4 heures, à l'issue de laquelle il n'y aura pas de verdict, car la décision sera mise en délibéré, donc dans plusieurs semaines. Notre équipe n'a pas été autorisée à filmer, mais 3 heures plus tard, coup de théâtre.
On vient juste de sortir de la salle d'audience et on a appris avec surprise que le président du tribunal allait statuer sur l'affaire aujourd'hui. Donc ce ne sera pas un jugement délibéré. On pensait avoir une réponse, en fait, à un jugement en septembre ou octobre. Ils ont décidé de nous donner un jugement aujourd'hui. Ça m'enlève, en fait, une attente qui aurait été très longue, je pense.
Désormais, le stress est bien réel. Dans 45 minutes, Vincent sera fixé sur le sort réservé à son ex-épouse et surtout sur la possibilité de revoir peut-être un jour ses enfants. L'heure tourne et les minutes sont longues.
Condamnation. Ouais, à 2 ans. Donc maintenant, ils maintiennent le mandat d'arrêt. Il a été condamné pour soustraction d'enfants et mise en danger. Donc les 2 chefs d'accusation ont été retenus. Voilà.
Le tribunal a aussi prononcé la déchéance de l'autorité parentale de son ex-épouse.
Vraiment, ça me fait plaisir. Ça va ?
Merci.
Vous êtes satisfait ? On est tous très émus. Bon, je suis contente.
Merci beaucoup, Jessica.
Cette condamnation permet aux enfants de Vincent d'être enfin considérés comme victimes. Par ailleurs, si leur mère s'aventure hors du territoire japonais, elle peut à tout moment être arrêtée et conduite en prison. Et si cela se produisait, Vincent pourrait même, qui sait, un jour, récupérer ses enfants.
Merci d'avoir fait de cette journée et de mon anniversaire.
C'est votre anniversaire ?
Ouais.
Ah, ça me fait plaisir.
C'est grâce à vous. C'est grâce à vous.
Vincent.
Merci beaucoup. Les petits, au moins, ils ont accès à la justice et ils verront que je les ai jamais abandonnés.
Retour à Lioré-des-Mares, Sandrine entame une nouvelle journée de recherche, plus anxieuse que jamais. Toujours pas de nouvelles de son fils Louen, 15 ans, disparu depuis un mois.
J'ai pas beaucoup dormi cette nuit,
Je cogite, en fait. J'essaye de me mettre à sa place. Je me dis, bon, il peut pas... Il n'a pas de pièce d'identité. Comment il peut faire pour dormir? On va faire l'APN, on va faire tous les petits hostels.
Pas question de perdre du temps. L'équipe qu'elle forme avec Stéphane, son ex-mari, se répartit les recherches.
Bah, déjà, quand on aura fait ça, et on se rappelle à midi pour savoir où est-ce qu'on en est.
OK.
Pour Sandrine, direction la gare.
Plutôt que de faire du stop, il aurait pu prendre les bus. Hein. Pour acheter un billet, il y a besoin d'une carte d'identité ou pas?
Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous achetez les tickets, ici, c'est tout.
D'accord. Ben, en fait, ça fait un mois qu'il a disparu.
Waouh. Ça va.
Sandrine veut être sûre que tout a bien été mis en œuvre pour retrouver Louen et se rend à la police nationale.
Ouais, donc là, il lance un appel sur le national, donc là, un peu plus sérieux, parce que du coup, tu sais, ils ont des centaines de disparitions dans l'espace Schengen. Le fait de venir les voir, il va mettre en place, en fait, un avis de disparition sur l'espace national en Espagne. Ouais. Ah, attends, j'ai un numéro 134 qui m'appelle.
Ok.
Ok, ouais. Ok. Allô?
Sandrine?
Si?
Soy el policía.
Ah, si.
El ciclomotor, la moto, es propiedad de su hijo?
Cet agent de police est visiblement très impliqué et tente de recouper toutes les informations afin de simplifier et d'optimiser les recherches. D'autant plus que Louen aurait changé de plaque d'immatriculation.
Vale.
Alors, elle est... Si, hein, est complicado.
Mais l'inquiétude de Sandrine grandit d'heure en heure.
Plus ça avance et plus des fois je me dis je crains pour sa sécurité. En fait, on ne sait pas du tout. Le fait de ne pas avoir de nouvelles, c'est terrible. Hein.
Sur les bords de plage, elle espère rencontrer des habitués des lieux qui auraient vu ou côtoyé Louen.
Parce que là, quand on voit la plage, là, il y a une petite crique aussi là-bas. On va essayer de monter là-haut, voir ce qu'il y a derrière.
Cet homme la met soudainement sur une piste.
De l'autre plage, si. Et puis, se peut dormir ici.
Ah, ils peuvent dormir.
Ah, ok. Alors, le monsieur là de l'entretien me disait que les jeunes, en fait, ils allaient sur l'autre plage. Là-bas, il y a des tentes la nuit. Parce qu'effectivement, bah, tout le monde ne peut pas se permettre de dormir là ou sans carte d'identité ou machin.
Ouais.
Donc là-bas, il y a sur l'autre plage, parce que là, en fait, ici, il y a la police qui passe.
Ah ouais?
Ouais.
Et s'il avait dormi là, un soir, plusieurs soirs, s'il était resté ici plusieurs jours?
Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit passé là. Ouais, j'en suis même certaine. Il a dû passer là.
Malgré l'immensité du paysage qui l'entoure, Sandrine a la conviction que Louen n'est peut-être plus très loin. Et si elle avait raison, instinct de maman.
Sandrine, tous les parents que nous sommes se sont forcément identifiés à vous pendant ce reportage.
Ah ouais.
On a ressenti votre stress, votre angoisse, Sandrine. Mmh. À la fin du reportage, vous aviez l'intuition d'être toute proche de votre fils, Louen. Vous en êtes où de vos recherches aujourd'hui?
Aujourd'hui, on l'a retrouvé.
On est heureux pour vous, Sandrine. Très, très heureux. Ouais.
On l'a retrouvé en Espagne. Un petit peu plus au sud, donc entre Valence et Alicante, dans un petit village qui s'appelle Gandia, je crois, grâce à un témoignage. Il était 11h30 du soir, et donc j'étais à 6 heures de route. J'étais en Espagne, toujours. J'étais à 6 heures de route, et voilà, j'ai pris de suite ma voiture, j'ai pas hésité une seconde. Et donc, j'arrive au petit matin. Je crois qu'il était 10 heures, j'avais fait toute la route pendant la nuit. Et je vais dans cette zone commerciale et je vais à l'endroit où elle m'avait indiqué, il n'y avait personne.
Donc je vais voir la personne de la sécurité et là il me dit ah oui, ça fait une semaine que je le vois tous les jours. Et donc là je commence à lui poser des questions, il m'a dit mais il est là ? Et j'ai dit comment ça il est là ? Non, je suis allée voir, il n'est pas là. Il me dit si, il y a un premier étage et il est dans les toilettes du premier étage, il est en train de recharger son téléphone. Donc je l'ai suivi.
Wow.
J'avais les jambes qui tremblaient tellement. J'ai pas pu prendre l'escalator parce que je me suis dit je vais m'effondrer, donc j'ai continué à marcher, il fallait que je reste en action parce qu'en plus je dormais pas beaucoup, c'était juste l'enfer. Et donc je l'ai vu assis sur le canapé, donc il y avait un long couloir et il était tout au bout. Et donc il était sur son téléphone et je me suis assise à côté de lui, donc il a enlevé son sac, il m'a pas regardée. Il a enlevé son sac, il l'a posé par terre. Et c'est en fait en relevant la tête que là, il s'est retourné. Et il m'a vu. Et l'effet de surprise, évidemment. Et là, il me dit, mais maman, t'es folle. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et là, ça a été chargé d'émotions. Enfin, je riais, je pleurais. Mon fils. C'était
magique.
Ouais, c'était magique.
On va accueillir Louane, il est avec nous ce soir. Louane. Bonsoir Louane.
Bonsoir.
Bon, tout d'abord, je te le dis, tu nous as fait une trouille monumentale à ta mère, à tout le monde. Louane, est-ce que tu en avais conscience de ça, du fait que tout le monde te cherchait, que du stress de ta maman, de ton père, de ta sœur, est-ce que tu avais conscience de ça ou est-ce que tu te disais, bon, je vais revenir, pas grave ?
J'ai eu conscience, mais pas tout de suite. En fait, c'est qu'au bout de 3-4 semaines que déjà j'ai appris qu'on me cherchait. Sinon, j'étais pas au courant du tout.
Tu pensais pas que ta mère allait te chercher ?
Bah si, j'étais bien au courant qu'elle allait me chercher, mais tout ce qu'il y avait sur les réseaux, dans les médias, tout ça, j'avais vu rien du tout. Parce que forcément, moi, j'étais en Espagne, j'avais un téléphone espagnol,
ouais.
Et pas tout de suite en plus. Donc t'as pas tout ce qui est français en Espagne. Et du coup, ouais, c'est qu'au bout de 4 semaines que j'ai vraiment vu l'inquiétude de mes proches. Ça m'a fait vraiment de la peine en fait.
Et Louane, quand tu vois les images là, qu'on vient de voir du reportage, quand tu vois justement bah, toutes les recherches de ta mère, de ton père, les larmes encore aujourd'hui là, de ta maman, ça t'a fait quoi de voir ces images ?
Ça m'a fait de la peine et en même temps je suis heureux parce que maintenant qu'on est tous réunis, bah, ça fait du bien en fait.
Est-ce qu'aujourd'hui, Louane, tu peux nous expliquer pourquoi tu es partie ? Parce qu'on l'a bien entendu, il y a un accident de moto, mais en fait on voit ta mère, elle est compréhensive, ta mère. Peut-être que tu aurais pu lui dire, tu te serais fait engueuler. Et bon, est-ce que ça valait le coup de partir 2 mois comme ça ?
Non, non. Il n'y a même pas de réflexion à avoir. C'était vraiment pas la bonne solution, en fait.
Et tu as fait quoi pendant ces 2 mois ?
Déjà, j'ai un peu visité, parce que... parce que, voilà, j'étais venu quelques fois en Espagne, mais c'était une des premières fois où je venais vraiment en Espagne. Et après j'ai fait des petits boulots, j'ai fait de la plonge. D'accord. Après, je me suis occupé.
Tu as eu peur ?
À des moments, il s'est passé des trucs, forcément, un mois et demi, mais j'ai eu quand même assez de chance qu'il ne m'est pas arrivé de choses graves, en fait.
Louane, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tous ces ados qui auraient envie de fuguer, qui pourraient se dire « bon, j'en ai marre, j'ai envie de partir ». Est-ce que tu as un message à leur faire passer aujourd'hui ?
Que ce n'est pas la bonne solution. Que s'ils ont des problèmes, c'est d'en parler à leurs parents. S'ils ont des problèmes avec eux, c'est de communiquer à fond et de leur en parler. Et que fuguer, ce ne sera jamais la bonne solution pour arranger. Ça n'arrange rien, en fait, de fuguer. Non.
Sandrine, ça se passe comment la vie à la maison, le retour, ça doit pas être facile quand même.
Moi, j'ai peur encore. J'ai peur. Je suis toujours dans. Alors, je pense qu'il comprend. Il comprend, mais je suis toujours dans cette angoisse-là. J'ai vraiment besoin qu'il me parle, qu'il me dise des choses, qu'il me rassure.
Ouais. Tu arrives à rassurer ta maman, Louane ?
J'essaye au maximum, même si des fois, c'est pas assez. Mais
non,
j'essaye de le faire au maximum.
Louane, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ta maman ce soir ?
Déjà que je l'aime fort, en premier.
Aussi, okay.
Et aussi, elle le sait, mais que j'ai fait beaucoup de mal et j'en suis conscient. Mmh. Et c'est pour ça que je m'excuse et je m'excuserai toujours pour ce que j'ai fait. Parce que je sais que c'était une épreuve difficile pour toi. Mmh.
Bah, pour nous tous, en fait. Hein.
Vous ne le souhaitez à personne.
Non, évidemment. Personne.
C'est quelque chose que tous les parents redoutent, en tout cas. Nous avons la chance, ce soir, d'être accompagnés par un expert. Il est psychothérapeute, il s'appelle Sofiane Jouhari. Et il va venir nous rejoindre tout de suite. Bonsoir, Sofiane. Je vous laisse vous installer dans ce fauteuil. Sofiane, on vient d'entendre le témoignage de Louane. Louane, c'est un adolescent donc, qui a fugué, qui est revenu. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un adolescent, je veux dire, pour pouvoir comme ça tout quitter, sans téléphone portable, sans rien, et ne pas donner de nouvelles pendant un mois et demi?
Il faut savoir qu'on a toujours deux types de fugues. On va avoir la fugue qu'on va anticiper, qui sera préparée, et il y aura la fugue qui va être spontanée. Donc dans tous les cas, on aura toujours deux dimensions. La première qui va être traumatique, et suite à un choc, on aura une pulsion, donc on aura cette envie de partir tout de suite. Et sur les fugues anticipées, c'est des événements qui sont beaucoup plus dangereux, dans le sens où on part à l'aventure, entre parenthèses, peut-être qu'on a des contacts. Dans tous les cas, il faut savoir qu'une fugue, c'est toujours dangereux, surtout aujourd'hui, surtout dans les... avec tous les outils qu'on peut avoir, toutes les personnes qu'on peut rencontrer sur les réseaux, mais qu'en réalité, on ne connaît pas forcément. Donc, c'est important de rappeler que toute fugue reste extrêmement dangereuse.
Bien sûr.
Mais l'une va être plus longue, celle qui va être préparée, et celle qui va être spontanée sera peut-être un peu plus dangereuse émotionnellement, puisqu'elle, ça sera un peu l'explosion, en définitive, de choc ou de certains traumatismes qui sont vraiment, vraiment dérangeants. Et à un moment donné, on n'a plus d'autre choix que de pouvoir partir.
Je me tourne vers notre grand témoin ce soir, c'est Dominique Rizet. Dominique, est-ce que vous avez un commentaire à faire ?
Dans cette affaire, il n'y a pas d'enquêteur. Moi, ça me manque, parce que dans une disparition, une fugue, un enlèvement d'enfants, il y a toujours des enquêteurs, des policiers, des gendarmes. Ouais. Et là, vous faites le boulot tout seul. Vous avez fait le job tout seul, toute seule, ou tout seul avec votre mari. Et je trouve que c'est très fort. Voilà, l'ON ne recommence jamais ça. Vraiment.
Exactement, on est très très heureux qu'il soit là. Vincent, on a aussi suivi votre combat, bien sûr, avec énormément d'émotions, ce combat contre votre ex-femme qui a kidnappé vos deux enfants. Et ce procès, finalement, qui est une énorme victoire pour vous. Vincent, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Vous aurez peut-être plus de facilité à retrouver vos enfants?
Ça va impacter le combat dans beaucoup de choses. Tout d'abord, pour moi, c'est d'abord de l'espoir. Parce que c'est dans le combat que je trouve de l'espoir. J'ai 6 procédures en cours aujourd'hui, à l'ONU, au Parlement européen, au Japon et en France. Et donc, ça ouvre la porte à ouvrir une 7e procédure maintenant, que je vais commencer. Ça légitimise le combat. Ça, vous savez, un jour, si je retrouve Kaede Tsubasa, je pourrais leur dire qu'on leur a obtenu justice, qu'ils ont obtenu le statut de victime. Pour moi, c'est très important, parce que c'est la première décision depuis 7 ans qui dit que Kaede Tsubasa sont bel et bien victimes d'un crime. Ça montre que j'ai jamais cessé d'être leur père. Et puis, peut-être que cette décision va pouvoir aussi, j'espère, faire jurisprudence au Japon pour éviter d'autres enlèvements. J'ai d'ailleurs été contacté par des hommes politiques, hommes et femmes politiques, cette semaine à Tokyo.
D'accord.
Des députés parlementaires qui m'ont demandé de partager ce jugement pour essayer de faire jurisprudence et de mettre un terme aux enlèvements.
Vincent, vous êtes venu avec des objets. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous les montrer?
Oui. Alors, en fait, c'est quand mon ex-épouse a enlevé les enfants, elle avait oublié de vider la machine à laver. C'est d'ailleurs la seule pièce qu'elle n'a pas vidée à la maison. Ça, c'était la robe de Kaede qu'on lui avait achetée à Hawaï 2 mois auparavant. Kaede avait 11 mois. Et ça, c'est le petit short de Tsubasa, quand il allait faire 3 ans le lendemain, en fait. Et c'est là, elle a oublié ça dans le tambour de la machine à laver, et c'est ce qui me reste des enfants, en fait.
C'est tout ce qu'il vous reste de vos deux enfants?
Oui.
Et des photos, évidemment, et des souvenirs. Vincent, il y a quand même un truc, c'est que dans le reportage, vous dites, vous parlez de l'avocate, en fait, de votre ex-femme. Mais si votre ex-femme a une avocate, ça veut dire qu'elle dialogue avec eux? Et donc, c'est-à-dire, en fait, que vous pourriez la retrouver, l'avocat de votre ex-femme, elle sait forcément où est votre ex-femme, en fait. Et donc, où sont vos enfants? Est-ce que vous avez quand même demandé à l'avocate, au moins, qu'elle vous donne des nouvelles de vos enfants?
Oui, c'est assez paradoxal, pardon, parce que au Japon, mon ex-épouse a réussi à obtenir un divorce dans lequel on lui attribue l'autorité unique, ouais. Malgré qu'un mandat d'arrêt avait été émis pour maltraitance et enlèvement. Pour cette plainte au pénal en France, elle s'est fait représenter par deux avocats. Bien sûr, qu'ils refusent de dire où leur cliente se trouve. Mais ils m'ont annoncé pendant la session au tribunal récemment qu'ils m'ont donné en fait les premières informations de mes enfants depuis 5 ans. Ils m'ont dit que mon petit faisait du rugby et ma fille du patinage.
D'accord. Voilà, une première victoire, Vincent, et je suis persuadée qu'elle sera suivie par beaucoup d'autres. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Sabrina, dans le reportage, on comprend que vous avez mis votre vie entre parenthèses depuis la disparition de Sylvain. Aujourd'hui, peut-être qu'il nous regarde, Sylvain, peut-être qu'il est encore en vie, qu'il regarde, ça se discute. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ?
Ben, j'aimerais lui dire qu'il pourrait faire un signe, quoi, même s'il n'a pas envie de revenir, nous le dire, quoi, le dire à moi, à ses enfants, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un papa de 3 enfants. Il faudrait qu'il fasse un signe, quoi.
Dans votre fort intérieur, Sabrina, vous ressentez quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pensez ?
Qu'est-ce que je pense ?
Votre intime conviction.
Je ne sais plus en fait quoi penser. Il y a des moments où j'arrive à me dire il ne reviendra plus. Et d'autres où je me dis... Vous voyez, je suis ici en fait et quand je m'éloigne de chez moi, j'ai peur qu'en fait, au moment où je ne suis pas là, il arrive.
D'accord.
Et que je ne sois pas là pour l'accueillir. Donc il y a des fois où je me dis il va revenir et d'autres où je me dis il n'est plus là.
C'est irrationnel, en fait.
Voilà, c'est ça. Même si peut-être qu'il avait un mal-être, c'est possible. Je pense qu'il aurait pu me le dire. Quoi.
C'était un taiseux, apparemment. C'est ce que disent ses amis dans le reportage.
Oui.
Ils disent on ne savait jamais.
Oui. Il ne disait jamais rien.
Sofiane, comment on fait pour vivre quand on est dans le cas de Sabrina ? Parce que le plus dur, on a l'impression que, bien sûr, c'est la tristesse de ne plus voir l'être qu'on aime. Mais c'est aussi de ne pas savoir. C'est affreux, on se met à votre place. Sabrina, elle n'a pas de nouvelles, elle ne sait pas. Est-ce qu'il est encore en vie ? Est-ce qu'il n'est plus en vie ? Est-ce qu'il est parti avec quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose ? En fait, on ne sait pas, quoi.
C'est toujours extrêmement compliqué. Et puis, en fait, quand je regardais le reportage, je voyais les étapes du deuil dans l'histoire de Sabrina. Quand on évoque un deuil, le deuil n'est pas uniquement que clinique. Le deuil, il est même beaucoup plus puissant quand il va être psychologique ou émotionnel. Il y a différents types de deuil. Et quand je la voyais avec sa fille, par exemple, dire « je suis en colère, mais je suis triste », on tombe dans deux des cinq étapes du deuil. Donc, pour rappel, on a d'abord le déni. C'est pas possible qu'il soit parti. C'est pas lui. Ensuite, on va rentrer dans la colère. Je lui en veux. Pourquoi il m'a pas prévenu ? On va ensuite rentrer dans la tristesse. Et puis, à l'instant, Sabrina nous disait « j'ai peur de sortir de chez moi parce que j'ai peur qu'il vienne et qu'il ne me trouve pas ». Là, on tombe dans la culpabilité. Dans la culpabilité aussi, peut-être, de se dire « qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il puisse partir ?» Et la cinquième clé, qui est la plus importante, c'est l'acceptation. Donc, pour s'en sortir, en réalité, ça commence par déjà ne pas essayer d'entrevoir quelque chose, mais d'accepter la situation.
Alors Dominique Rizet, je me tourne vers vous. On a vu une histoire avec un dénouement heureux, hein, celle de Sandrine et de Louane. Là, on voit Sabrina, son combat pour rechercher Sylvain, qui a disparu depuis près de 3 ans. Et on a l'impression que finalement, 2 ans, on a l'impression que ces disparitions, c'est le plus dur à vivre en fait pour les familles. On se met tous à la place de Sabrina. Vous, des familles, vous en avez rencontré plein, Dominique. Oui.
Vous savez, vous avez dit tout à l'heure en démarrant cette émission, il y a 60 000 personnes, c'est entre 60 et 68 000 qui disparaissent, disparitions inquiétantes chaque année en France. On met à côté de ça un chiffre qui est affreux. On enterre sous X entre 1 000 et 2 000 personnes chaque année en France. D'accord. Des corps qu'on retrouve, qui sont enterrés sous X dans des cimetières et qui resteront 5 ans. Au bout de 5 ans, on fait de la place dans les cimetières. Et la loi fait obligation maintenant. C'est important de dire ça parce que la loi fait obligation maintenant au procureur de la République de faire des prélèvements génétiques sur tous les corps qu'on D'accord. retrouve comme ça. Ils sont non identifiés. Et la question, on ne peut pas vous la poser, mais est-ce que vous préféreriez savoir, je ne vous la pose pas, qui ne reviendra pas et qui vous a quitté, ou est-ce que vous préféreriez apprendre une nouvelle plus pire que celle-ci ? Vous voyez, c'est...
Mais cette question, vous l'avez déjà posée, Sabrina.
Ah oui, je me la pose même moi. Je me dis, qu'est-ce que je préférerais En fait, je ne sais pas.
C'est dur.
J'aimerais que, en fait, je...
Vous aimeriez savoir, en fait.
Voilà, voilà. Ça. Savoir le pourquoi.
Et la piste, justement, de l'enterrement sous X, est-ce que ça, les enquêteurs l'ont creusé ou pas du tout?
Pas du tout.
D'accord. Alors justement, je me tourne vers vous, Sylvie, parce que vous êtes enquêtrice à la RPD, l'association de recherche des personnes disparues. Alors avant de parler du cas de Manon, hein, qu'on a suivi dans le reportage, j'aimerais quand même avoir votre avis sur Sylvain, la disparition de Sylvain, le compagnon de Sabrina, parce que vous êtes enquêtrice. Dominique Rizet parlait effectivement des enterrements sous X. Ça, c'est une piste que vous auriez creusée, vous?
Complètement.
Oui.
Oui, oui. Immédiatement, oui. Quand on n'a pas de traces de vie du tout... La banque, sécurité sociale, les impôts, téléphonie. Tout de suite, on pense effectivement au sous-X, tout de suite.
Moi, j'ai une question qui est peut-être un peu dure, mais si, par exemple, quelqu'un de la RPD avait retrouvé Sylvain et que Sylvain lui avait dit « Moi, je ne veux pas que vous donniez des nouvelles à ma famille », est-ce que l'enquêteur de la RPD est tenu au secret professionnel ou est-ce qu'il va quand même dire à Sabrina « Écoutez, Sabrina, il est vivant, mais il ne veut pas revenir. Que doit faire l'enquêteur dans ces cas-là?
On doit faire ce que le disparu nous demande.
Alors, on va prendre des nouvelles, vous, de votre enquête. On l'a dit tout à l'heure, 30 enquêtes, Sylvie, 28 affaires résolues. Est-ce que là, aujourd'hui, on est sur une 29e affaire résolue ou pas du tout?
Oui, on va dire qu'elle est résolue. Maintenant, ce n'est pas un happy end encore.
Ouais.
Parce qu'elle ne souhaite pas reprendre contact avec sa famille pour l'instant.
Ouais.
En tout cas, personnellement, la plupart du temps, on finit par me rappeler quelques mois plus tard.
D'accord.
Toujours. Pour qu'on soit en qualité de médiateur ou alors qu'on transmette un message ou même qu'on soit présent lors du rendez-vous.
De votre travail.